j'étais à SIS, je terminais mon émission, je reçois un coup de téléphone de Jean Stock. Vous voyez, Jean Stock, RTL, oui, d'accord, moi je me mets au garde à vous. Et donc Jean Stock, RTL, je me mets au garde à vous. Et il me dit, voilà, est-ce que tu peux être demain à Copenhague à 11h du matin? Je dis, nous sommes vendredi, t'inquiète pas, le billet d'avion t'attend à Zaventem à tel endroit, etc. Et on se retrouve à Copenhague, on t'expliquera. C'est quand même magnifique, quoi. Ça, c'est du Jean Stock tout cuit. Hein. Et donc, moi, évidemment, bien sûr, évidemment. Et donc, le lendemain, j'ai été chercher mon billet d'avion, je suis arrivé à l'aéroport de Copenhague, et on m'a dit, voilà, on va t'intégrer à l'équipe de repérage de Mégaventure, qui était une émission de télévision un peu interactive, les premières émissions interactives. Et donc, je me suis retrouvé à Copenhague à faire un repérage pour RTL. Et puis après, progressivement, les choses se sont installées. Il était question que je rentre à RTL comme attaché à la direction des programmes, donc assistant de Jean Stock. J'ai signé un contrat dans ce sens-là. J'ai commencé au mois de mai en tant qu'assistant de la direction des programmes. Il m'a demandé de réfléchir à un programme de midi qu'il fallait revoir. J'ai rentré un projet. Il m'a dit, bah, tu vas t'en occuper. Et puis, qui va présenter ça? Bah, je veux bien essayer, moi j'ai dit. Et puis voilà. Et c'est comme ça que l'aventure RTL a commencé. Donc, je veux dire, pour moi, les radios ont été un véritable détonateur dans ma vie.
Et le fait d'avoir connu la radio, l'illégalité, des choses comme ça, est-ce que vous pensez que ça a aussi forgé votre manière d'animer à la télé? Est-ce qu'il y a eu des liens entre ce côté pirate et la présentation télé?
Non, c'est pas le côté pirate, non. C'est le côté spontané. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en télé, les gens me disaient toujours, et c'est ainsi que je travaillais, enfin dans la mesure du possible, c'est que je ne suis pas différent en télé devant une caméra que dans la vie de tous les jours. Et en fait, ça a été ma force, quoi. C'était de ne pas jouer à être à la télévision. Donc je me suis retrouvé à la télévision de manière aussi naturelle que je me suis retrouvé à la radio. Et donc, voilà. Mais c'est le côté... enfin, disons que la radio m'a donné confiance en moi. Parce que se retrouver devant la télévision, je me suis rendu compte que c'était tout autre chose que de mettre un micro et un disque et de parler entre les deux. C'est très très exigeant. Donc ça c'était important, mais ça m'a aussi donné confiance en moi. Donc la radio m'a permis de me donner confiance dans ma manière d'être, et de conserver le naturel. Voilà. Et ça, ce naturel, je l'ai conservé jusqu'à la fin.
Et une dernière petite question qui me vient comme ça. Quand vous parlez de tout ça, des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas connu, ils réagissent comment? Ils apprécient ce genre de choses, ce parcours?
Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils apprécient ça, qu'ils le transposent un petit peu sur la vie d'aujourd'hui, en se disant qu'ils pourraient peut-être eux aussi commencer à imaginer des choses, parce que quelque part, on a créé quelque chose qui n'existait pas, tout comme les jeunes. Et mon fils aujourd'hui, mon plus jeune fils qui a 19 ans, il est aussi là devant l'univers à se dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et je dis « le problème, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où tu vas créer toi-même ton univers professionnel, parce que peut-être qu'il n'existe pas et peut-être qu'on ne l'a pas encore imaginé. » Et à ce moment-là, c'était ça en fait qui se passait. C'est qu'on créait quelque chose qui nous paraissait ludique et amusant, mais en fait on a créé un phénomène qui est devenu aujourd'hui ce que les radios privées sont devenues toutes les unes après les autres.
Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Oh, c'était bien agréable en tout cas.
Mais pour moi aussi, c'était bien agréable. Dommage que ça s'arrête.